Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Oh que oui, c'est l'heure de la carte blanche. On est lundi, nouvelle semaine, bientôt nouveau mois, dans quelques semaines Noël, et qu'on va se faire plaisir. Mais je crains que non, en fait.
Non?
Je sais pas si on se fera pas plaisir, mais c'est un sujet qui pourrait peut-être être en fin de parcours de cette année 2022, le sujet de l'année ou pas, c'est à voir. Ça nous semble loin, mais je pense que rien de ce qui concerne la Chine n'est vraiment loin de nous, parce qu'il y a, là...
Ben non, mais Mélanie Joly nous a rappelé durant la fin de semaine que c'était exactement tout prêt et qu'il fallait enfin avoir une stratégie.
Et prendre la mesure, peut-être, ben oui, des enjeux, du risque. On va y investir de l'argent et des efforts aussi diplomatiques. Le Canada veut être davantage présent en Asie du Sud-Est et être capable de faire face à la Chine. C'est nouveau d'ailleurs dans le discours qu'on reconnaît qu'il y a peut-être une opposition entre nos valeurs et les leurs. Puis je te dirais que c'est peut-être en tout cas un des événements de l'année, ou au contraire, on va bientôt apprendre que c'est la preuve de la toute-puissance de la machine autoritaire chinoise. Je parle des manifestations, ça fait quelques jours qu'on en parle. Nous, au Canada, on a passé les 6 dernières semaines à faire enquête sur les circonstances de l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence en février dernier à Ottawa. Le gouvernement n'a pas été parfaitement transparent dans les derniers 1000, mais on a quand même obtenu de l'information. En Chine, pas besoin de loi spéciale pour faire taire le pays. En Chine, pas de chance non plus que les autorités laissent longtemps un mouvement de protestation prendre de l'ampleur, et c'est ce qu'on va effectivement mesurer. Fait l'hypothèse que des camionneurs partaient de l'ouest du pays en Chine pour aller bloquer les routes de Beijing, je pense qu'ils auraient trouvé rapidement des tanks sur leur chemin.
T'sais, non, mais là, on capote parce que quoi, il y a 3-4 centaines de manifestants dans 3-4 grandes villes qui ont manifesté, puis on se dit, on n'a jamais vu ça depuis des années. Imagine.
Alors, je ne capote pas, et je ne sais pas si non, c'est 3-4
là-bas, là-bas, ça capote.
Oui. Puis c'est très difficile. Il y a plusieurs sources occidentales. Est-ce qu'elles sont en tout meilleures? En tout cas, c'est certain qu'on peut se rallier davantage à celles-là qui ont confirmé que des vidéos qui circulaient étaient des vidéos qui avaient été effectivement tournées au cours des derniers jours, que l'information était véridique. Et c'est, moi, je pense, tout ça, ce contexte qui rend les événements des derniers jours si intéressants ou si terrifiants. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de courage ou de désespoir pour défier les autorités qui, non seulement ont les moyens, des moyens colossaux pour étouffer de possibles manifestations, mais disposent aussi d'un système de surveillance qui ferait vraiment rougir d'envie les anciens patrons de la Stasi, tu sais, les fameux services secrets de l'Allemagne de l'Est. Est-ce que tu avais vu, toi, la vie des autres, ce film?
Oui.
Formidable, qui justement explore cette espèce de société de surveillance où tout le monde se check. Puis, en visitant une des prisons en Allemagne de l'Est, à Berlin, en fait Berlin-Est, une de ces prisons qui est aujourd'hui un musée, c'est un détail, mais ça donne une idée de la sophistication. Quand tu étais toujours interrogé, évidemment sur un fauteuil, et on te demandait de mettre tes mains sous tes cuisses. Pourquoi? Parce qu'on prenait le tissu qui s'y trouvait pour garder une empreinte olfactive de toi si t'avais été interrogé par la Stasi, ce qui faisait que si on devait un jour lâcher les chiens pour te retrouver, on avait gardé ton empreinte olfactive. Et c'est pas une blague, parce que tu transpires évidemment des mains. Alors, à l'heure des technologies modernes, pas besoin de chiens pisteurs ou de micros pour
les Chinois, ils suivent les gens partout à la trace.
Et voilà. Est-ce que c'est Big Brother? Je te dirais que c'est Big Camarade. alors, les confinements massifs, puis répétés, sont évidemment la cause des débordements des derniers jours, des dernières semaines. On en avait déjà parlé, c'est souvent bien contrôlé l'information. Alors, il y a eu du rififi dans une usine de production d'iPhone, puis quand on dit une usine, il faut voir, c'est une ville en Chine qui produit des iPhones, puis il y a des travailleurs, des ouvriers qui étaient craintifs d'être enfermés de force en raison de la COVID, parce que c'est une des choses que font les autorités. Ils disent, ben on va vous garder, vous retournerez pas dans vos familles. Et plusieurs ont choisi de fuir plutôt que d'être enfermés. Puis ce qui a peut-être aussi mis le feu aux poudres, sans jeu de mots, c'est un incendie qui a fait 10 morts dans la capitale du Xinjiang, dans l'ouest du pays, la semaine dernière. On pense que parce que les gens étaient justement confinés, ça n'a pas aidé. On dit même que dans certains cas, les pompiers le sont à l'occasion, confinés, ne peuvent pas intervenir aussi rapidement. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement 400 millions de personnes en Chine en ce moment qui sont confinées. Il y a plusieurs grandes villes qui sont touchées à des degrés différents. Beijing, il faut des preuves de tests négatifs pour effectuer...
Je pense qu'ils font des tests PCR quasiment tous les jours en certaines villes.
Exact. C'est complètement débile, disons-le. Shanghai aussi, qui avait été fermé, barré à 40, à nouveau prise avec de sérieuses restrictions. Puis c'est beaucoup souligné, mais je pense que c'est là que ça devient inquiétant et intéressant en même temps, c'est que c'est peut-être la première fois depuis Tiananmen qu'on assiste à un mouvement de protestation généralisé, mais qui se déroule à plusieurs endroits au pays en même temps. On entend aussi, un peu comme c'est arrivé pendant la commission d'enquête à Ottawa, où on a entendu ça, on entend que les forces de l'ordre sont par moments sympathiques aux manifestants. Évidemment, les policiers, les militaires sont aussi des citoyens. Ils voient la douleur de leur famille, on peut l'imaginer, des gens qui vivent autour d'eux, parce qu'on parle à répétition depuis 2 ans de confinement très sévère. Alors, moi, je pense que la question qui nous intéresse en début de semaine, c'est est-ce que le bluff des autorités peut être calé? Parce que toutes les dictatures reposent toujours sur une machine répressive, évidemment implacable, puis une espèce de pacte implicite avec la population. Parce que même si tu as des services de sécurité redoutables, il devient un jour impossible de résister au flot populaire quand il devient vraiment populaire. Puis, il faut atteindre un point de bascule. Est-ce qu'on est proche ou loin? C'est très difficile de le dire en Chine. Mais tu sais, le moment où une masse, la population, a l'instinct, l'intuition qu'il y a suffisamment de personnes qui peuvent faire péter la digue, effectivement, les choses peuvent exploser. C'est pour ça que tous les grands régimes autoritaires, les grandes dictatures, donnent l'impression de tomber c'est comme du jour au lendemain. Marcos aux Philippines, le régime de M. Duvalier à côté de chez nous en Haïti, Ceausescu, il me semble, le 26 décembre 89-90. On savait qu'il se passait quelque chose en Europe de l'Est, mais du jour au lendemain, c'est comme si le monstre qui a tenu le pays en joue, là, le contrôlé, tombe d'un coup. Alors, le cyber-monitoring d'aujourd'hui, c'est un facteur nouveau. Les Chinois sont très probablement les champions du monde dans ça. Est-ce qu'on peut, par exemple, cueillir les troubles faits avant même qu'ils ne passent à l'acte? Et là, c'est un autre film qui me vient en tête. C'est Minority Report.
Ouais.
Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. T'sais, qui est tiré d'une nouvelle extraordinaire de Robert K. Dick, où t'es potentiellement arrêté pour un crime que, t'as
que
pas
tu
commis,
pourrais commettre, là, ouais.
Mais auquel tu penses. Donc, est-ce que les Chinois sont capables d'arrêter ceux qui pourraient être les éventuels organisateurs de ces manifestations? Ce qui est très surprenant, c'est que on se disait, avant l'élection ou la réélection du grand patron, Xi Jinping, il va vouloir faire taire toute forme de dissension. Il doit faire la preuve que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Mais la censure semblait fonctionner jusqu'à là. Tu sais, moi, ce qui me surprend, c'est que des gens aient été capables d'organiser des manifestations.
Ben, c'est là que je parle de point de bascule. T'sais, c'est-à-dire, est-ce que tu peux arrêter des centaines de milliers de personnes? C'est pas ce qu'on a vu dans les rues. Mais tu sais, quand ça se met à se multiplier, quelle est ta capacité répressive à empêcher ce qui n'est pas empêchable? Tu sais, puis il y a un mystère vaccinal en Chine. Ça aussi, on en a parlé il y a un mois et demi. Tu sais, je posais la question parce que j'ai pas de réponse. Mais ils ont vacciné avec leur vaccin. Clairement, ça a pas fonctionné. La technologie de l'ARN, si les Chinois y croient, ils peuvent l'acheter. Alors, évidemment, est-ce que ça serait humiliant parce qu'ils l'ont pas développé? Mais tu dis, c'est quoi le prix de l'orgueil national?
Est-ce que les gens meurent en ce moment ou c'est vraiment juste une posture très forte et juste idéologique d'un parti qui veut pas admettre qu'il a pas eu la bonne idée puis qui va fléchir devant les... Il y a comme ça aussi. Alors, là.
Évidemment, là aussi, très difficile, parce que théoriquement, je pense que le bilan de la COVID en Chine, ces gens sont... quatre écarts à être mort, là.
Ben, c'est ça, ils ne le disent pas, là.
Ils ne le diront pas. Très officiellement, on parle de 40 000 personnes qui auraient chopé la COVID, genre, avant-hier. 40 000 sur une population d'1,3 milliard. Mais c'est plus que ce qu'ils ont jamais admis. Mais la question, c'est... d'abord, effectivement, une population, c'est ce qu'on présume, qui a été protégée, qui n'a pas d'immunité naturelle, est probablement plus à risque. Donc, effectivement, il y a un facteur d'immunité naturelle. Les Chinois ne sont pas exposés beaucoup à ça, mais ça va arriver éventuellement. Puis on dit, et c'est l'explication acceptée de tout le monde, y compris de notre côté de la barrière, même chez ceux qui ont des doutes sur les Chinois, on dit, ah, ils font ça parce qu'ils ne peuvent pas risquer une explosion de l'épidémie, le système de santé va péter. Mais tu sais, les Chinois, ça fait deux ans et demi qui vivent cette situation. Mmh. Et on sait que quand ils mettent l'épaule à la roue, des hôpitaux sont capables d'en construire, mobiliser la population, sont capables. Et ça ne s'est pas fait. Et le coût économique à ce jour de cette espèce de fermeture à répétition est non seulement inimaginable, mais je dirais insondable. Il n'y a pas de chiffres, mais c'est des sommes colossales qui échappent à l'économie chinoise.
Et à l'économie en général, tu sais, la chaîne d'approvisionnement puis l'inflation est due en partie à cause de ça. Là.
Oui, ouais. C'est ça, c'est le cas de le dire, c'est la chaîne d'approvisionnement est un peu défectueuse. Mais le pari, justement, des autorités, ça a toujours été de dire, on va vous donner du pouvoir d'achat puis on va acheter une certaine complaisance
politique. On va acheter la paix, c'est ça.
Exactement. Et là, ils mettent ça, non seulement en doute, en jeu, ils prennent de sérieux risques. Ils, je dis, est-ce que c'est d'ailleurs ils au singulier ou au pluriel? Parce que c'est clair que Xi Jinping seul emmène très large. On pense, on croit qu'il est omnipotent. Mais combien de temps peux-tu l'être? Et je reviens à ça. Est-ce qu'on va faire le bilan dans 3 semaines d'une année où l'événement déterminant aura été le début d'un mouvement de contestation ou c'est une fausse nouvelle, c'est fake news. Je te dis pas que... Fake news au sens où il y a du ressentiment.
C'est une vraie
massif.
Nouvelle, mais qu'ils vont réussir à la faire mourir dans l'œuf.
À l'écraser. Et c'est
ça ne sera pas le Tchernobyl du régime chinois, là.
J'aimerais te dire que je le sais. si on est réaliste, on essaie d'éviter de faire des prédictions. La dernière fois que je l'ai fait en ta compagnie, je disais qu'il y avait 60% des chances que le Sénat passe aux républicains. Donc, c'est des jeux d'échecs à 3 étages ou à 10 étages. Tu déplaces un pion, puis ça affecte le jeu sur 10 étages. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment en Chine. Mais c'est potentiellement, puis je sais que pour partir la semaine de lundi, il y a des choses qui nous interpellent directement davantage. Tu parlais d'éducation à l'instant. On va en parler dans 1 an, on va en parler dans 4 ans.
Non, mais c'est ça. Mais la Chine, c'est hallucinant. D'ailleurs, juste parenthèse, as-tu vu la nouvelle méga porcherie de 26 étages?
Oui. J'avais pas catché qu'il y avait 26 étages, là, mais...
650 000 cochons sur 26 étages.
Ça fait beaucoup de cochons. Ça fait beaucoup de cochons.
Mais c'est ça la démesure aussi. Quand tu dis qu'ils sont capables de construire des hôpitaux, si ils sont capables de construire ça, ils sont capables de construire des hôpitaux, ils auraient été capables en 2 ans d'avoir le meilleur système de santé.
Exact. Et de mobiliser. Ne serait-ce que tu dis, fais l'équation. Qu'est-ce que ça va coûter de se donner les moyens, mettons, de résister à 1, 2, 3 vagues? On l'a vécu dans nos systèmes fragiles et appauvris. On l'a vécu. Donc, les Chinois se seraient dit, OK, parfait, on va encaisser 1 vague, 2 vagues, 3 vagues. Puis à un moment donné, effectivement, la combinaison de ce que tu peux faire en médecine, de vaccination peut-être, et de l'immunité naturelle, qui partout dans le monde a fini par avoir un impact aussi, tu dis, ça va faire que la Chine va reprendre sa vie normale. Non. Alors, le coût de négocier ce virage ou ces virages versus le coût des fermetures à répétition depuis 3 ans, je pense que c'est incomparable. Alors, pourquoi politiquement s'entêter? J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que s'il fallait que ça déborde, si la rivière sort de son lit, quand je parle de la rivière, je parle du peuple chinois, si le mécontentement est supérieur, justement, au deal qu'ils ont eu, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent, vous pourrez consommer, vous pourrez vous acheter du Louis Vuitton, mais vous vivrez dans un système autoritaire. Si ce pari est renversé, ça c'est le genre d'événement qui peut changer le cours de l'histoire à court et moyen terme. Alors, je n'annonce pas ça parce que je ne sous-estime pas la capacité répressive des Chinois. C'est d'ailleurs ce qui glace le sang. Parce que si eux savent le faire, d'autres sauront le faire un jour. Et d'autres sauront s'en inspirer. Je souhaite simplement que peut-être il y a quelque chose comme une révolution qui fera que les Chinois soient mieux capables de se faire entendre. Parce que le premier combat pour eux, c'est de sortir de chez eux. Ils en peuvent plus. On a vu ce que ça a impliqué chez nous, les confinements. Fait qu'imagine la version hardcore.
Non, puis ils ont faim. Ils sortent plus. Il n'y a plus, en tout cas.
C'est fou.
Assez hallucinant.
J'ai beaucoup, beaucoup de pensées pour ces gens qui doivent être dans une extrême souffrance.
Nicolas Ceaușescu, 22 décembre 89, la date officielle de la chute de son régime. Trois jours plus tard, le 25 décembre 89, condamné, exécuté.
J'étais à Hong Kong, pour te dire. Donc, quand j'ai appris, je me rappelle, c'était dans le journal là-bas. Et c'était mon premier contact avec la démesure dont tu parles. C'était Hong Kong, c'était pas la Chine, mais ça donnait l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et ça ne s'est qu'accéléré, parce que si tu vas à Shanghai aujourd'hui, tu as l'impression que nous vivons dans le tiers-monde.
Stéphane, bonne journée.
Ciao.